Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour, bienvenue dans ce numéro de novembre de Loire Mag, le podcast. Au menu, le dossier d'abord. Ce sera un focus sur le logement social dans la Loire avec Fabienne Perrin, conseillère départementale en charge du logement. On plongera aussi au cœur du département avec l'interview de deux personnes engagées au sein de la Banque alimentaire de la Loire. Ça bouge dans la Loire, c'est Chantal Brosse, élue départementale vice-présidente en charge de l'agriculture, qui nous parlera des lauréats du concours 2021 des produits fermiers innovants. Attention, préparez vos assiettes et vos couverts. Et enfin, nous terminerons par une belle rencontre avec Loïc Vergniaud, triple médaillé d'argent aux récents Jeux paralympiques de Tokyo.
Loire Mag, le dossier.
Cette année 2021, encore plus de 60% des dépenses du département seront consacrées aux solidarités humaines, parmi lesquelles l'autonomie des personnes en situation de handicap, la petite enfance et la famille, l'insertion, l'action sociale et la santé, et bien sûr, le logement et l'habitat. Focus aujourd'hui sur le logement social dans la Loire, un besoin qui peut concerner chacun d'entre nous à un moment ou à un autre. Fabienne Perrin, conseillère départementale en charge du logement.
Au fond, chaque Ligérien, à un moment de sa vie, peut se retrouver en situation de demander un logement social, ne serait-ce que quand il débute sa vie professionnelle, parce que les droits sont consentis en fonction d'un niveau de revenus et d'impôts que vous avez payés. Il s'avère que l'année d'avant, si vous ne travaillez pas, vous pouvez vous retrouver en situation où, effectivement, vous pouvez prétendre à ce logement. Je vous rappelle quand même que la loi, en général, avait prévu, il y a fort longtemps, que les loyers, si vous occupiez une habitation sociale et que votre loyer était à payer alors que vous gagniez assez bien votre vie, il était revalorisé en fonction de vos revenus. Donc, on est bien clair, dans un premier temps, tout le monde peut y prétendre. Bien entendu, les personnes que l'on va satisfaire, entre guillemets, en priorité, sont les gens qui ont vraiment des besoins sociaux.
Parlons des besoins. Est-ce que l'on peut dire que toute personne ayant besoin de ce logement social va pouvoir être satisfaite, même si ce n'est pas forcément tout de suite le quartier ou le type de logement qu'elle aurait aimé, mais au moins elle aura un toit au-dessus de sa tête?
Dans l'idéal des cas, on aimerait pouvoir répondre à tout le monde et de façon adaptée. Dans la réalité, des latences, des délais. Mais nous ferions ferme pour pouvoir apporter des réponses adaptées le plus rapide possible aux personnes qui sont en demande. Quelquefois, ça relève d'une chose simple, c'est une personne qui vient de se séparer et qui se retrouve du jour au lendemain sans habitation, qui retourne chez ses parents, par exemple. Retourner chez ses parents, c'est pas simple après des années. Et on va essayer d'apporter le maximum de bienveillance dans les choix que l'on va faire, tout en pesant les urgences, c'est quelquefois une situation un peu compliquée, mais on essaie d'être le plus juste possible.
Le parc de logement lui-même est ancien, il y a du neuf qui se construit. Tout ce qui est maintenance est important aux yeux du département par rapport à ces logements sociaux dont il est responsable?
Bien entendu. Un logement social, ça doit être un logement comme un autre. Donc le département a à cœur que les logements dont il a la gestion ne soient pas des passoires thermiques. En tous les cas, un gros travail est fait dans ce sens pour arrêter toute situation de cet ordre-là et la corriger, apporter un peu de confort, tenir compte de ce que les gens attendent, des logements plus petits ou plus grands, des terrasses, des jardins. Eh bien, ça fait partie des choses qu'on a en tête. Et si on fait un programme, soit de réhabilitation importante, soit de promotion, eh bien, on en tiendra compte et on verra à rentrer ces paramètres dans les évolutions de nos parcs de logements. Mais bien entendu que le département a à cœur d'avoir un parc en très bon état.
Les habitants eux-mêmes se les approprient. Le sentiment d'appartenance, puisqu'on n'était que locataire, pouvait ne pas exister. Et les dégradations étaient parfois constatées. Vous avez le sentiment que cet état d'esprit, cet état de fait change, Fabienne Perrin, plutôt dans le sens positif?
Oui, c'est tout à fait mon avis. Vous savez, on a à cœur d'entretenir nos immeubles, on a à cœur d'entretenir les logements, l'environnement de ces logements. Et quelle est l'intention? L'intention, elle est de ne pas rajouter la difficulté à la difficulté. On est dans un logement social, on n'est pas auprès de personnes qui sont forcément dans des situations très heureuses. Donc si vous les logez mal, il va y avoir une forme de désinvestissement du logement qu'ils occupent. Il suffit que le carreau soit cassé, qu'on ne le remplace pas, que le chauffage marche une fois sur deux ou que l'ascenseur soit défaillant. Et après, finalement, on se prend de désamour, si je peux utiliser ce terme, vis-à-vis de son logement et de son immeuble. Et d'un coup, la dégradation va devenir presque naturelle parce qu'il va y avoir de la négligence. En revanche, quand on a à cœur de répondre rapidement, d'apporter un logement de qualité, que l'on entretient, eh bien, on va donner un peu d'espoir, on va revaloriser la personne qui s'y trouve et on va lui donner à voir que tout ce qu'il va pouvoir faire pour garder cet appartement dans cet immeuble précis en bon état, eh bien, ça valorise tout le monde, son voisin, mais soi-même.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
La Banque alimentaire de la Loire a été créée en 1986 et fait partie des 79 banques composant la Fédération française des banques alimentaires. Basée à Saint-Étienne et à Roanne, la Banque alimentaire de la Loire approvisionne 65 associations et centres communaux d'action sociale sur l'ensemble du département. Je vous propose de retrouver Pierre Bouvard. Il a emmené notre journaliste Clément Bonsignor dans les entrepôts où sont stockés une partie des produits qui seront ensuite distribués aux personnes en difficulté. Vous entendrez aussi Jean-Marie, bénévole à la Banque alimentaire de la Loire.
C'est un entrepôt qui fait 1500 m², situé 23 rue Gustave Delory à Saint-Étienne, et qui nous permet le stockage de denrées alimentaires pour l'approvisionnement de 65 associations sur le département, sachant qu'en plus de cet entrepôt, nous disposons d'une antenne sur Roanne depuis l'année dernière avec un entrepôt de 500 m².
Parlons, si vous le voulez bien, du rôle de la banque alimentaire qui est finalement de chapeauter un peu et de constituer des stocks pour d'autres associations, Pierre Bouvard.
Alors la banque alimentaire, contrairement à beaucoup d'associations d'aide alimentaire, ne distribue pas directement à des bénéficiaires, mais approvisionne des associations, va récupérer des denrées alimentaires au niveau et des industries agroalimentaires et des grandes surfaces et de toutes les sources d'approvisionnement où nous pouvons disposer de marchandises gratuites, et ensuite met à disposition ces marchandises auprès de nos 65 associations sur le département de la Loire.
Alors la banque alimentaire fonctionne 12 mois dans l'année, mais avec un gros événement qui arrive le 26, 27 et 28 novembre prochain, où on va voir les fameux gilets oranges à la sortie des magasins récolter les denrées des Ligériens.
Alors effectivement, les banques alimentaires organisent une grande collecte nationale le dernier week-end de novembre, donc cette année 26, 27 et 28 novembre. Et les gilets oranges, qui sont la marque des bénévoles des banques alimentaires, seront présents sur 92 supermarchés et hypermarchés du département pour pouvoir solliciter les clients de manière à ce qu'ils puissent effectuer des dons au profit de la banque alimentaire. C'est une opération qui est très importante pour les banques alimentaires parce que d'une part, elle nous permet d'être au contact du grand public et deuxièmement, en termes de récupération de produits, ce sont l'équivalent de 320 000 repas qui sont récupérés lors de ce type d'opération et ce qui est stratégique en termes de stock de nourriture pour la banque alimentaire.
Alors évidemment, la mobilisation des clients est essentielle, mais il y a aussi les petites mains dont vous avez besoin. En fait, ce sont les bénévoles qui vont se retrouver à la sortie des magasins.
Alors, on a besoin effectivement de bénévoles pour assurer des permanences au niveau des magasins. Donc ce sont des permanences de 3 heures qui sont effectuées au niveau des supermarchés ou hypermarchés et pour lesquelles nous recherchons effectivement des personnes disponibles sur ces 3 jours pour venir nous aider. Ces personnes peuvent s'inscrire sur le site jeveuxaider.gouv, le site du gouvernement sur lequel nous avons des annonces de recrutement de bénévoles sur les différentes villes du département de la Loire.
Alors Jean-Marie, merci d'être à notre micro. Depuis combien de temps vous êtes bénévole ici à la Banque alimentaire ?
Une dizaine d'années.
Qu'est-ce qui motive votre engagement ?
D'abord aider les gens en difficulté et d'autre part une très bonne ambiance, ici c'est exceptionnel, la façon de discuter entre nous, tout ça, sans aucune arrière-pensée, c'est très intéressant.
Alors je suppose que vous n'êtes pas là tous les jours, comment vous aménagez ça ?
Alors en fonction de mes disponibilités, bien évidemment, et en fonction des demandes du directeur, Eric, je suis présent 2 à 3 fois par semaine, 3 matinées par semaine.
Ce qui est déjà pas mal. Et quelles sont vos missions sur ces 2 à 3 matinées? C'est toujours pareil ou est-ce que ça se diversifie un peu?
C'est assez diversifié, mais bon, il y a déjà les tournées donc pour la ramasse hein, tous les matins, le frais. Ou alors la répartition sur le sec hein, pour les associations. Donc ça se passe relativement bien. Ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, c'est plutôt les rencontres avec les gens qui sont là, les bénévoles, voire même des jeunes, mais actuellement, là, avec les jeunes qui sont en détachement. Et c'est très intéressant, c'est vrai, que de rencontrer des gens et de discuter de choses et d'autres, c'est très intéressant.
Sur la mobilisation du 26, 27, 28 novembre, là, c'est la grande mobilisation, vous serez dans les supermarchés, vous serez de la partie vous aussi?
Absolument, oui, bien sûr, les 3 jours, donc on sera là, comme les autres années du reste. Et on essaie de trouver des gens autour de nous, dans nos familles, un peu partout, pour nous aider également.
Les missions sont les mêmes ou est-ce que vous allez dans les supermarchés pour le coup récolter ou est-ce que vous êtes ici pour aider?
Non, surtout pour la ramasse, qu'on appelle la ramasse ou la collecte, comme vous voudrez. On sera donc sur un camion à plusieurs bénévoles à récolter les denrées sur les différents magasins.
Sachez qu'en 2020, la Banque alimentaire de la Loire a fourni plus de 4,1 millions d'équivalents repas aux personnes en difficulté dans le département.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
L'édition 2021 du concours des produits fermiers innovants s'est déroulée à nouveau sous la présidence de Sylvain Roux, chef étoilé du Château Blanchard à Chazelles-sur-Lyon. Une occasion unique pour les producteurs fermiers de faire reconnaître leur travail par des professionnels de la gastronomie. La remise des prix a eu lieu le 3 octobre lors des journées de la Fonte de Montbrison et des Côtes du Forêt. Chantal Brosse est vice-présidente du département en charge de l'agriculture. Elle-même est ancienne agricultrice. Elle revient sur l'histoire de ce prix des produits fermiers innovants.
C'est le département qui a décidé depuis 17 ans de proposer ce concours pour mettre en avant toute la production fermière qui est faite dans le département pour lequel nous demandons de nous présenter des produits innovants, des produits qu'on pourra retrouver peut-être sur la table des restaurateurs et puis sur nos tables de fête. C'est pour les aider à trouver des débouchés.
Donc ce sont des produits transformés systématiquement?
Oui, voilà, c'est des produits transformés, charcuterie, fromage, dessert, soupe, enfin voilà, tout un panel. Quelquefois, les producteurs se rendent pas compte qu'ils ont quelque chose qui sort de l'ordinaire.
Oui, parce que les paysans eux-mêmes n'y pensent pas.
Pas toujours.
Les critères, c'est bien sûr sur le produit. Le goût, la
oui.
texture, ce que vous appelez, j'ai vu ça aussi sur le site, les qualités organoleptiques.
Voilà.
Mais aussi l'emballage, le nom du produit, oui. Ça va jusque-là.
Oui, on demande un nom un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais qui présente quand même le produit. Quand on le lit, on sait à quoi on va avoir affaire. Et dans le packaging, on essaye d'aider les agriculteurs à aller vers du développement durable. Ils nous présentent des produits avec du verre ou du plastique recyclé ou du carton. Ils travaillent beaucoup sur l'innovation eux aussi.
Parlons du premier prix, Happy Choc. C'est Michael Lejeune, un apiculteur. Comme le nom du produit le laisse penser. Qu'est-ce qu'il caractérise? Vous l'avez goûté, j'imagine, parce que vous faites
sûr.
Partie du jury.
C'est une pâte à tartiner au chocolat et au miel.
Et ça doit être bon.
Ah, mais ça, c'est bon. Hein. J'en ai ramené à la maison. J'ai vite caché le pot après que tout le monde en ait goûté, parce que sinon, on allait le terminer. C'est vraiment une personne qui essaye de cuisiner le miel et il a plein de recettes et celle-ci, elle a vraiment séduit tout le monde. Je pense qu'il a dû travailler un certain temps pour arriver à ce résultat.
On continue, le deuxième prix, c'est le forésien, très sobrement, Joachim Robert. Il s'agit de pavés hachés de lapin à la Fonte de Montbrison et éclats de noisettes.
Le lapin, on a sûrement pas l'habitude d'en manger souvent, mais il a fait cette recette et vraiment, on s'est tous régalés. Et à Montbrison, en fin de journée, il n'en avait plus parce que voilà, il a été dévalisé. Et il avait d'autres produits qu'il avait préparés à base de lapin, mais il s'est très bien cuisiné le lapin et il a de très bons débouchés aussi. Et Bravo pour cette réalisation.
Michael Lejeune avec son produit Happy Choc est à Cordelle. Joachim Robert pour son produit à base de lapin. Le Forésien, lui, est à Sainte-Foy-Saint-Sulpice. Saint-Laurent-sous-Rochefort, c'est une chevrière que l'on trouve avec le Certon Noix, c'est le troisième prix. Les biquettes du Certon, un crottin fermier au lait cru entier de chèvre, moulé à la louche, enrobé de brisures de noix sauvages ramassées, triées, séchées, cassées et réduites en brisures sur l'exploitation. On est aussi vraiment dans la description même du produit dans l'hyperlocal.
Moi, c'est des jeunes que j'ai rencontrés avec le maire de la commune, puisque c'est mon canton. Il m'a parlé de ces producteurs qui venaient de s'installer depuis 3-4 ans. Je les ai rencontrés, je leur ai parlé de ce concours des produits fermiers et donc ils ont candidaté. On est arrivé à ce qu'ils aient le troisième prix, donc c'est super. En plus de ça, la noix, c'est un petit peu une tradition sur ces communes, Saint-Laurent-sur-Rochefort, Saint-Didier-sur-Rochefort, une production de noix très ancestrale. Ils ont vraiment réussi un très bon produit avec ce Certon Noix.
On va terminer sans parler de la belette. Ça, c'est formidable, la belette. Une pâte pressée non cuite de type raclette. C'est Magali Sabot qui l'a fabriquée dans son GAEC à Saint-Marcel-de-Féline.
Ce qu'ils nous ont expliqué, c'est lors du confinement, ils avaient perdu des débouchés avec la fermeture des cantines scolaires. Et ils ont travaillé un fromage qui peut se conserver et qui a une plus longue durée. Et c'est grâce au confinement qu'elle a pu préparer la belette.
Voilà. Ça, c'est un nom qui donne envie aussi. Vous me le disiez hors micro avant de commencer, Chantal Brosse, vous êtes toujours époustouflée par l'innovation des producteurs. Il nous reste 30 secondes. C'est vraiment ce qui vous marque d'année en année.
Oui, c'est la volonté de toujours trouver des choses qui sortent de l'ordinaire pour un moment sympathique pour le consommateur. Et notre démarche, on fait parrainer notre concours cette année par...
Le chef du château Blanchard, voilà. À Saint-Gilles-sur-Lyon.
Sylvain Roux, lui aussi nous apporte beaucoup dans l'explication de produits et il est très averti pour nous donner un petit coup de main dans le jury.
Et vous retrouverez les 8 lauréats de ce concours 2021 sur le site du département www.loire.fr.
Loire Mag, visage de la Loire.
C'est dans un café de Renaison que j'ai retrouvé il y a quelques jours Loïc Vergniaud, triple médaillé d'argent aux Jeux paralympiques de Tokyo. Sa spécialité, le handbike, qu'il pratique depuis son accident il y a 17 ans, à la suite duquel il a eu une amputation de sa jambe droite. Le handbike, ce sont plusieurs types d'épreuves. Loïc Vergniaud.
Moi, je suis engagé sur le handbike, donc j'ai 3 épreuves différentes. Donc c'est le contrôle à monte, donc là c'est tout seul face au temps. Et après, il y avait la course en ligne, donc là, on est en peloton et tous les autres de la même catégorie. Et le premier arrivé remporte la victoire. Et après, la troisième course, c'est une course en relais. Donc là, on est 3 de chaque pays. On fait trois relais chacun, en fait, sur un petit parcours. Toutes les équipes partent en même temps. La première équipe arrivée a gagné.
Vous êtes quelqu'un qui vous entraînez tout seul? Vous n'avez pas de coach?
Si, j'ai un coach. Coach et un préparateur physique aussi. Non, je suis entouré aussi du nutritionniste. Mais ouais, c'est vrai que mes entraînements sur la route, en vélo, je les fais 99% tout seul, quoi. Des fois, au gré des rencontres sur la route, je roule avec quelqu'un qui est en vélo normal, mais la plupart du temps, ouais, je suis tout seul. Sauf quand on est en stage en équipe de France, où là, on peut rouler un peu en groupe.
Qu'est-ce qui caractérise le vélo en tant que tel pour le handbiker?
Le handbike, c'est un vélo déjà à 3 roues, donc avec la force des bras. Donc après, tout le reste, c'est les entraînements, la mécanique, ça reste un vélo basique, quoi. Ça reste comme un cycliste lambda.
3 médailles d'argent dans les 3 disciplines concernées. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour un tel succès?
Je suis préparé depuis des années, en fait. Ça fait 5 ans que j'avais l'objectif d'aller au jeu, donc j'ai progressé chaque année. Et là, avant de partir à Tokyo, j'avais passé déjà 3 semaines aussi en altitude, justement pour améliorer ma forme et mes performances. Voilà, j'ai travaillé avec mes entraîneurs pour être au top niveau les jours J.
Et on parle beaucoup du mental dans la compétition. Est-ce que vous vous y êtes préparé aussi?
Plus personnellement, parce que je ne suis pas encore suivi par un coach mental. Mais oui, c'est très très important sur les courses comme ça, qui sont à longue, on va dire, des fois, de toujours croire qu'on peut gagner et de tout faire pour. Donc la tête contribue beaucoup, de ne pas abandonner quand les bras font souffrir, quoi.
Revenons sur le temps même des Jeux. Vous êtes parti quand les précédents étaient rentrés ou bien vous aviez un village qui était spécifique?
En fait, on est arrivé à peu près une dizaine de jours avant les débuts de nos compétitions. Donc on avait ce qu'on appelle une base arrière qui était pas autour de Tokyo, donc à peu près à 3 heures de Tokyo. Donc là, on est resté pour s'habituer un peu au climat et ne pas souffrir du décalage horaire le jour des compétitions. Et après, voilà, 5 jours des compétitions, nous sommes allés au village paralympique cycliste, qui n'était pas vraiment à Tokyo non plus, c'était vers le mont Fuji, où on courait sur un circuit automobile, en fait. On a accédé au circuit 5 jours avant nos compétitions et on est rentré tout de suite après nos compétitions. Notre quotidien, c'était hôtel, bus et circuit d'entraînement ou de compétition. Puis après, dans le village olympique, on est resté 2 jours juste avant de rentrer. Et donc, on n'avait pas le droit de sortir du village non plus.
Tout ça à cause de la pandémie. Justement, l'absence de public qui vibre à l'unisson des coureurs, ça ne vous a pas manqué?
Déjà habitué à pas avoir beaucoup de public dans le paracyclisme. Mais c'est vrai qu'on aurait bien voulu être supporté. Parce que quand c'est une grande compétition, c'est vrai que c'est le petit manque, c'était le public quoi, sur le circuit. Parce que vraiment, c'était tout prévu pour le recevoir et ne pas l'avoir. Ça a été un peu dommageable. Bon, on a eu un peu de public parce qu'on avait une petite partie hors du circuit. Et là, les habitants du village où on traversait sur 3 km sont quand même sortis nous applaudir pendant la course.
Vous avez votre petite fille avec vous qui s'appelle
Célia.
Célia, tu as suivi la course de ton papa à la télé?
Oui.
C'était 2h30 en France, donc avec sa maman et son grand frère, ils ont essayé de suivre la course. Mais c'était difficile de garder les yeux ouverts quand même, même s'ils avaient envie de voir l'arrivée. Je crois qu'elle l'a vu, mais voilà, un peu fatiguée quand même.
Et tu es fière de ton papa?
Oui, je suis très fière.
Merci. Loïc Vergniaud, les Jeux Olympiques de Paris, c'est 2024. Vous y serez?
J'espère. Enfin, je vais continuer à mes compétitions, à travailler. Et ben voilà, en 2024, on verra qui c'est qui partira. Et, enfin, je vais tout faire pour, mais voilà, c'est encore loin, on va dire.
Qu'est-ce qui vous motive, Loïc Vergniaud, dans ce travail et ce don de vous-même, quelque part, que vous faites à la compétition?
J'aime la compétition, j'aime courir, faire le meilleur résultat, j'aime gagner, quoi. Donc voilà, c'est ce qui me motive, c'est de toujours aller plus vite et je voudrais être le meilleur, donc c'est ce qui me motive tous les jours, même quand il fait mauvais et tout, à prendre le vélo, à aller m'entraîner. Le dépassement de soi aussi pour certaines. Des fois, c'est pas des compétitions, c'est juste de faire des grands trajets, de voir des beaux paysages, monter l'école. Donc, c'est. Voilà, c'est d'être satisfait de la performance une fois fini, quoi.
Alors, vous avez un handicap à la jambe. Avec l'entraînement, avec la réussite qui est la vôtre, c'est quelque chose que vous oubliez?
Oui, après, bon, mon vélo, j'utilise pas mes jambes, mais. Voilà, ça va faire 17 ans que je suis handicapé, que je suis amputé de la jambe droite, donc maintenant je suis habitué, ça fait partie de ma vie. C'est à peine si je me souviens ce qui était avant, mais voilà, c'est moi maintenant, donc oui, c'est normal pour moi.
Est-ce que vous pensez qu'en tant que champion, vous avez à transmettre quelque chose aux jeunes en particulier?
Ah ouais, faire office d'exemple pour les jeunes, de la persévérance dans le travail, de se faire plaisir aussi, et pouvoir... leur dire que ben, tout est possible, quoi, en fait. Avant mon accident, je pensais jamais être athlète de haut niveau, mais après mon accident, je suis devenu athlète. Donc, c'est donner les moyens de réussir et d'y croire jusqu'au bout.
Quel est le meilleur souvenir que vous avez ramené de Tokyo, Loïc Vergniaud?
Le meilleur, on va dire, c'est la 3e médaille en équipe, quoi. Parce que celle-là, on peut la partager avec 2 autres collègues. On aurait pu gagner largement, je pense, la médaille d'or, mais une petite chute dans la course d'un de mes collègues fait qu'on a cravaché toute la course pour revenir à cette 2e place. Et surtout qu'on rapporte la médaille pour notre 3e copain qui n'avait pas eu la chance de gagner des médailles sur les 2 courses précédentes. Donc vraiment, on la voulait, on était la chercher. Même elle aurait été en bronze, on aurait été heureux. Mais voilà, c'était vraiment un travail d'équipe et on est très heureux de l'avoir eu, celle-là.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.